Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
Nicaragua, Daniele, siempre presidente.
Rendez-vous, place de la foi, la bien nommée. Depuis que celui qu'on vient saluer, le comandante, est devenu le creyente, le croyant. Daniel Ortega, l'ancien guérillero, revenu au pouvoir grâce aux urnes et aux évêques. La révolution n'est plus à l'ordre du jour. La guerre contre l'impérialisme est oubliée. Priorité à une autre guerre contre la pauvreté.
Ce fut la dernière révolution du XXe siècle. Ce fut le sandinisme. Mais le Nicaragua, à peine une nation, était tout petit face aux États-Unis. Ses structures sociales et religieuses étaient prégnantes. Le sandinisme n'épargna pas au pays la guerre civile. Une fois revenues les formes démocratiques, il devint le pivot de toutes les combinaisons politiques et il est toujours au pouvoir. Le commandante Ortega, de scrutin contrôlé en scrutin contrôlé, devient un chef perpétuel. Récemment, le président de l'Assemblée nationale, qui vient de mourir, a été prorogé dans ses fonctions au-delà de sa disparition. Il avait bien mérité de la patrie puisqu'il avait modifié la Constitution afin de permettre à Daniele de se représenter sans fin. Mais Daniele se sent vieux tout de même. 71 ans pour un candidat, ça devient beaucoup. Il a donc placé sur son ticket électoral son épouse. Rosario Murillo est un étrange personnage qui s'habille comme Brigitte Fontaine et plante partout des arbres métalliques de 15 mètres de haut qui s'illuminent la nuit. Des talismans de Noël, sans doute. Une des enfants qu'élevait le couple a déclaré avoir été continuellement violée par le commandante. Non seulement Rosario a nié, mais elle a officialisé sa relation avec Daniel Ortega. Le cardinal de Managua a béni le mariage, puis il a eu la satisfaction de voir les danielistes pénaliser toute forme d'avortement, quelle qu'elle soit. Nous ne sommes décidément plus au pays de la Révolution, mais au royaume de l'extravagance, en une génération de sandinisme qui se voulait singulier, devenu un danielisme baroque.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Gilles Bataillon, bonjour.
Bonjour.
Historien, sociologue, qui connaît à la perfection ces régions d'Amérique centrale grâce à toutes les méthodes académiques, mais vous êtes aussi un enquêteur.
Oui, si vous voulez.
Sur le terrain. Un cinéaste, enfin, vous avez fait au moins un film sur le Nicaragua.
J'ai fait un film sur le Nicaragua, oui.
Et puis vous éditez des mémoires de Nicaraguayens. Récemment, Moïses Hassan. C'est un livre aux éditions Les Belles Lettres. Ce Moïses Hassan, qui est un sandiniste, un post-sandiniste, parce qu'il ne l'est plus maintenant, compare son pays au roman de Renard. Vous savez, les fripons rusés, comme Renard.
Je crois qu'il a tout à fait raison. Quand il parle des fripons rusés, il parle de l'histoire du Wegwense, qui est un personnage malicieux.
L'équivalent de notre roman de Renard.
L'équivalent de notre roman de Renard, et qui fait des tours aux puissants. Et il explique que c'est un pays sans institutions, ce qui est le cas de la plupart des pays d'Amérique centrale, et où les gens prennent l'habitude d'une débrouillardise invraisemblable, et où dans cette débrouillardise invraisemblable, on crée des réseaux de puissants qui protègent des gens moins puissants, qui protègent des gens encore moins puissants qu'eux, et tout le jeu politique se fait entre ces réseaux de clientèle.
Mais au sommet, il y a un caudillo qui n'est pas toujours tout puissant, parce qu'il vit quand même sous la tutelle des États-Unis. Alors, on ne peut pas ne pas parler du Nicaragua sans citer le propos peut-être apocryphe de Roosevelt. Qu'est-ce qu'il a dit, Roosevelt, de la famille Somoza,
Quand on lui parlait de Somoza, on lui disait « Somoza est un fils de pute », et il disait « c'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute ». Et il y a l'idée que les États-Unis, ce qui a été vrai jusqu'à Carter, ont couvert à peu près tout au Nicaragua, comme dans d'autres pays d'Amérique centrale, mais on pourrait dire la même chose du Mexique, où les États-Unis se sont très longtemps accommodés de la dictature du prix, parce que le prix leur vendait du pétrole.
Alors, le tremblement de terre de 72, ses conséquences sont extrêmement mal gérées par la famille Somoza qui capte une partie des aides, qui est accusée aussi d'avoir assassiné dans des conditions horribles le leader de l'opposition Chamorro, qui dirigeait l'excellent journal La Prensa. C'est horrible, hein. On l'aurait mis en cage.
Non, alors, Chamorro a été emprisonné quand il a pris les armes. Non. Chamorro a été emprisonné quand il a fait partie d'un groupe de guérilleros qui ont pris les armes. Et ça devait se combiner avec un putsch de la garde nationale contre Somoza. Et il a été emprisonné. Et pendant l'époque où il était emprisonné, il était dans une grande cage, comme dans un jardin zoologique, avec d'un côté des panthères qui avaient été donnés, des jaguars qui avaient été donnés par le dictateur guatémaltèque, et de l'autre, il y avait Pedro Joaquín Chamorro en caleçon avec une écuelle pour manger.
Mais heureusement, le temps de l'animalité se termine, ou semble se terminer en 79, avec la chute qu'a acceptée le président américain Carter de Somoza.
Anastasio Somoza a quitté Managua ce matin par son jet personnel à 5h du matin exactement. Il était suivi par un Boeing 727 plein de ses ministres ou de ses hauts fonctionnaires, très marqués par 40 ans de somosisme. La population des quartiers populaires, coincée par l'omniprésence de la garde nationale, fait comme si rien ne s'était passé. Lorsque le gouvernement provisoire débarquera à l'aéroport de Las Mercedes, l'aéroport de Managua. À ce moment-là seulement, on fêtera ici le départ d'Anastasio Somoza.
Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días.
Les cloches de la cathédrale restait debout en dépit du tremblement de terre. On se souvient des photos impressionnantes du Managua de cette époque. Et puis devant la cathédrale, place de la Révolution, le Te Deum qui congédie la barbarie. Gilles Bataillon, vous décrivez ensuite l'alliance qui va se produire. La junte qui prend le pouvoir est en fait largement dominée par les sandinistes, mais ils ne sont pas seuls, ce sont des guérilleros qui sont dans la montagne, qui se réclament du héros sandino des années 30. C'est un peu une alliance entre Garibaldi et Gavroche, vous savez, parce qu'il y a les sandinistes et puis les muchachos.
Alors, les muchachos, c'est tous les jeunes qui ont pris les armes et qui ont rallié les maquis sandinistes et surtout les sandinistes des commandos urbains qui ont lancé l'offensive générale à partir de mai 79, et d'abord à León, puis dans d'autres villes, où les gens ont fait le coup de feu, et il y a eu une espèce de répétition générale, puisqu'il y a eu une première offensive générale manquée en septembre 78, et où les gens se sont soulevés et ont appuyé des groupes de sandinistes, mais ce qui va vraiment déclencher l'insurrection, et il va y avoir une espèce de jeu à qui ira le plus loin, c'est l'assassinat de Pedro Joaquín Chamorro en janvier 79, où là la bourgeoisie se dit si on peut tuer Pedro Joaquín Chamorro, qui est comme un espèce de prince de l'Église, alors on peut tuer n'importe quel opposant. Et ils se lancent dans des grèves, ils payent leurs ouvriers pour les jours de grève qui sont lancés, et il y a des manifestations gigantesques dans Managua, et il y a une première émeute très importante dans un quartier indigène où des gens rentrent, font une messe à l'honneur de Pedro Joaquín Chamorro et la garde intervient. Et c'est un premier grand soulèvement populaire contre la garde.
Alors le sandinisme et ses alliés attirent l'attention du monde, d'autant qu'ils semblent ne pas être des révolutionnaires comme les autres. Ils auraient tiré l'expérience de la dérive totalitaire de nombre de révolutions. Donc Debray, Cortázar, Fuentes, Günter Grass, Graham Greene viennent dans le petit Nicaragua, qui rallie aussi des volontaires qui sont prêts à travailler dans les campagnes d'alphabétisation ou pour la réforme agraire, ainsi ce Français Daniel Alegría, d'origine nicaraguayenne.
Donc quand je suis venu ici, je sais pas, c'est comme si ma tête avait changé en 180 degrés. Tu vois. Je suis venu en 80, après le triomphe de la révolution. Mais tout était neuf. C'est-à-dire, ils commençaient à avoir une force de police, on commençait à tout reconstruire, les rues, tout. Donc j'ai participé presque dès le début du triomphe de la révolution, et ça m'a pris beaucoup de choses. Et Par exemple, quand je suis retourné en Europe, je peux parler à mes amis 5 minutes de ce qui se passe au Nicaragua, mais après c'est fini. C'est-à-dire parce qu'ils croient que tu as un livre de Marx ou à l'épaule, quoi, ou enfin à la main. Et tout ce que tu leur dis, que moi je suis convaincu parce que je l'ai vécu, eux ils croient que c'est qu'ils t'ont lavé le cerveau. Ils disent oui, mais ça c'est du lavage de crâne, ils t'ont bourré le crâne et tout ça. Mais c'est très différent. Tu vas vivre ici et voir, et tu te sens que tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas comme en Europe que tu es même pas l'engrenage dans une machine monstrueuse. Ici, tout le monde compte pour quelque chose.
Cependant, Daniel Alegria est devenu secrétaire de Borgué, le ministre de l'Intérieur, qui est peint dans les mémoires de Moïsès Hassan que vous venez d'éditer. C'est un type très malin, Borgué, parce qu'il a gardé la façade d'une modeste maison dans un quartier très modeste, et puis il a construit en dessous quelque chose de grandiose, avec une piscine, mais c'était dissimulé aux yeux de la population. Il y a toujours des fripons rusés. Et puis il y a une opposition, et cette opposition, elle va s'organiser dans une nébuleuse qui va s'appeler la Contra, et qui va mener assez vite, hélas, à une guerre civile.
La Contra va naître dès la fin 80 et il y a une histoire qui est très intéressante, qui est le premier groupe, c'est les Milpas. Au début, c'est les milices populaires anti-somozistes qui ont appuyé le front dans les régions centrales et qui très vite se retournent contre le front parce qu'ils sont contre la forme de la réforme agraire. Pour eux, la terre devait aller aux paysans. Pour les sandinistes, il faut constituer des gigantesques fermes d'État et poursuivre le modèle agro-exportateur de Somoza. Et là, les paysans vont encachimbarse, comme on dit en espagnol, se foutre en colère, et vont se grouper en petits maquis et faire des coups de main avec l'idée qu'ensuite ils vont pouvoir négocier et que la révolution va tenir ses promesses, c'est-à-dire leur donner des terres et du crédit. Et pas du tout, ils sont déclarés ennemis du peuple, il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont torturés, il y a des descentes de police extrêmement brutales dans les zones où ils sont, et c'est à ce moment-là, après l'élection de Reagan, il y a eu des négociations entre Reagan et les sandinistes, où l'équipe de Reagan a dit aux sandinistes « Nous savons que vous appuyez le front Farabundo Martí au Salvador, si vous continuez, nous, on appuiera ces paysans qui sont en train de se former et qui ne demandent qu'une chose, c'est de l'aide militaire. »
Et c'est Reagan ce qui va se forme passer. Dans des camps, par exemple, au Honduras, les membres des Contras qui sont considérés par ce jésuite dans une émission d'André d'Artevel, un jésuite de la théologie de la libération, comme de véritables faux frères. « Nous avons vu, dit-il, la scène de Caïn et d'Abel. Vous êtes Abel au Nicaragua et vous avez voulu instaurer l'égalité, mais voilà, on a fait venir Caïn de l'autre côté de la frontière.
Queridos hermanos, hemos visto la escena de Caïn y Abel. Cuando Abel llegó aquí a Nicaragua y quiso organizar esto con igualdad como familia de los hijos de Dios, Caïn no quiere dejarnos en paz. Caïn asesina a lo mejor de nuestra juventud que está defendiendo la paz de Nicaragua en la frontera. Caïn asesina a los técnicos que están enseñando a los campesinos a cultivar mejor para que saquen mejor producto del campo, a los técnicos del INRA, a los empleados del IRENA que protegen nuestros bosques. Caïn está asesinando a los maestros que enseñan a leer y a escribir, a niños y a grandes.
L'usage du vocabulaire religieux, on le retrouve dans l'autre camp aussi. D'ailleurs, la Vierge apparaît. Je ne savais pas que la Vierge était apparue au Nicaragua pour tenir un langage de conciliation, quand même.
Fin 79.
Ne soyez ni libéraux, ni
voilà,
marxistes.
Fin 79, l'Église a appuyé la Révolution et Monseigneur Obando a eu cette phrase extraordinaire où il a dit « Dans la Révolution, dans la lutte contre Somoza, qui est le péché structurel, des péchés mineurs seront commis. Mais ces péchés sont pardonnés parce qu'ils sont moindres que le péché contre lequel on va combattre. » Et ensuite, comme la Vierge apparaît et dit qu'il faut que cesse la lutte de classe, on commence à organiser des processions à Cuapa et se met en place tout un discours religieux contre la Révolution qu'on accuse de fétichisme et on en appelle au Christ roi, au catholicisme conservateur contre la théologie de la libération. Et toute la Contra va combattre, scapulaire au cou, et ils vont être un mouvement comparable à celui de la Cristiade durant la Révolution mexicaine, qui est un soulèvement catholique contre un État centralisateur.
Et c'est après l'apparition de la Vierge que Donna Violeta Chamorro, la veuve de Chamorro assassiné, on reparlera d'elle, va démissionner de la junte et se préparer à entrer dans l'opposition contre laquelle lutte le grand chanteur. Je vous laisse prononcer son nom, Carlos.
Carlos Mejía Godoy.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagal. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Le Nicaragua, déjà post-sandiniste à cette époque avec Gilles Bataillon. Je ne dirais pas que c'est l'influence de la Vierge. En tout cas, les appels qui sont tentés du côté du front sandiniste comme du côté de la nébuleuse de la Contra pour une issue démocratique finissent par être entendus et des élections présidentielles ont lieu en 1990. Et c'est Donna Violeta Chamorro, déjà citée, qui est élue contre Daniele Ortega. Et elle dit ceci.
Mi gobierno va a abolir de inmediato el servicio militar obligatorio y va a revertir el militarismo actual para permitirle al joven nicaragüense su educación libre. Los padres de familia tendrán el derecho de escoger la educación que reciban sus hijos.
Voilà, le service militaire obligatoire que les sandinistes avaient instauré au nom de la lutte contre la Contra est aboli. Je ne dis pas que c'est l'influence de la Vierge, mais Donna Violeta, qui est présidente à partir de 90 jusqu'en 96, est une mère réconciliatrice. Gilles Bataillon.
C'est quelqu'un qui va avoir la capacité d'asseoir autour d'une même table les sandinistes et la Contra, et qui va, avec l'aide des sandinistes qui vont devenir les rénovateurs et les futurs opposants à Daniel Ortega, en particulier Sergio Ramírez, qui a été son vice-président, Doria María Téllez, qui est une femme assez extraordinaire, vont jouer la carte de la pacification et de la démocratisation du Nicaragua. Ils vont en particulier interdire qu'un président se représente à l'issue de son mandat. Ils vont interdire à un proche parent du président de se présenter à l'issue du mandat de ce parent, avec l'idée d'éviter ce qu'on appelle le continuisme qui a été la plaie de la vie politique nicaraguayenne, c'est-à-dire des successions de caudillos d'une même famille qui se succèdent à la tête du pouvoir.
J'entends bien, mais Violeta ne va pas pouvoir lutter contre le friponisme, enfin contre les fripons rusés.
Elle ne va pas y arriver et
vous
le grand drame...
Vous racontiez avant l'émission une histoire extraordinaire de convoi, de secours démantelé, démonté par un fripon rusé.
Alors, il y a eu son gendre, qui va être son premier ministre d'invasion, Antonio Lacayo, va à la fois être l'homme qui va négocier avec les sandinistes, mais qui va se livrer à des trafics tout à fait honteux. On l'accuse d'avoir fait démonter le chemin de fer entre Managua
et Léon, le chemin de fer.
Et d'avoir vendu les voies de chemin de fer et le matériel à des gens qui ont remonté ce train ailleurs. Et disons, ce qui va être catastrophique au moment de ce gouvernement, c'est que c'est à la fois un gouvernement qui va instituer des mœurs démocratiques et qui, en même temps, au nom des combinazioni politiques, va arroser des gens et reprendre toute une série de traditions de corruption liées aux affaires politiques.
Mais quant au successeur, Alman, puisque la présidente n'a pas le droit de se représenter, vous l'avez expliqué, c'était le cas à l'époque, c'est la corruption généralisée que lui, il installe. Mais les sandinistes continuent à tenir des ficelles, par exemple celle de la Cour suprême, et un accord va avoir lieu qui va garantir à Alman la paix et la tranquillité en échange d'une alliance qui va permettre à Ortega de se présenter avec davantage de chances d'être enfin élu en 2000.
Toute l'affaire du pacte entre Ortega et Alemán et les libéraux nationalistes, ça va être la chose suivante. L'un et l'autre ont des affaires que leur reproche la justice. Ortega est accusé en 98 de viol par sa belle-fille. La plainte est enterrée par une juge nicaraguayenne, qui est la même juge sandiniste, qui a conduit et instruit l'affaire pour corruption contre Arnoldo Alemán, qu'elle a condamné à la prison. Et cette juge déclare non recevable la plainte de Soil America.
Donc là, Ortega n'est pas un violeur et Alemán ne sera plus un voleur.
Mais l'affaire va aller plus loin que ça, parce que Soil America, appuyé par des féministes, va déposer à la Cour interaméricaine de justice.
C'est la fille.
C'est la fille. Mmh. Et c'est là que sa mère, Rosario Murillo, aujourd'hui vice-présidente du Nicaragua, va faire pression sur sa fille pour qu'elle retire sa plainte au niveau interaméricain.
Voilà. Et c'était un couple illégitime, aux yeux de l'Église, Rosario et Daniele. Maintenant, ils vont se marier. Et le cardinal de Managua, Obando, va bénir le mariage.
Disons, on considérait que pour un renouveau d'un gouvernement ortéguiste, il y avait trois dangers qui le menaçaient, il y avait trois ennemis qui l'avaient mis à bas pendant son premier mandat. C'était l'Église, c'était le monde entrepreneurial et c'était les États-Unis. Les États-Unis, c'est Benign Neglect depuis la fin du mandat de Bush. Ortega, revenu au pouvoir, a fait des lois fiscales extrêmement avantageuses pour les entrepreneurs qui ne payent pratiquement plus d'impôts et où ils sont dans une position de toute puissance vis-à-vis de leurs employés. Et enfin, il s'est allié avec l'Église puisqu'il est revenu en arrière sur des lois autorisant l'avortement thérapeutique. Et il s'est déclaré chrétien et solidaire.
C'est comme ça qu'il va d'élection contrôlée en élection contrôlée, ayant même maintenant obtenu une prolongation. Il n'y a plus du tout la règle que vous signaliez, Gilles Bataillon, de la non-reconduction du mandat. Il est ici dans une émission que vous avez reprise dans un de vos films en 2006.
Certains disent que vous êtes un candidat usé, vous êtes candidat pour la cinquième fois consécutive. Si vous perdez cette fois, vous restez ou vous vous retirez? Sincèrement, je réponds au nom du Front sandiniste. Je pars de l'idée que nous allons gagner les élections. Je ne connais pas le mot « perdre » dans ce contexte. Les conditions sont réunies pour que le Front sandiniste, avec la conjoncture et avec Daniel comme candidat à la présidence, obtienne la victoire électorale et nous donnerons à ce pays une stabilité à long terme.
Voilà, c'était il y a 10 ans et l'élection qui s'est déroulée hier, sans observateurs ni nationaux ni extérieurs, va donner un résultat déjà prévisible. Il parle de lui à la troisième personne. Mais on dit qu'il a, Gilles Bataillon, je dis ça dans le monde diplomatique par exemple, le soutien des couches populaires avec les 18 programmes d'aide, faim zéro, habitat digne, éducation gratuite qu'il a lancé.
Alors, il a le soutien d'une partie des couches populaires, en particulier des couches populaires urbaines, puisqu'il y a une politique assistentialiste qui n'est pas une politique assistentialiste d'État-providence, mais qui est une politique assistentialiste qui passe par l'affiliation à des communautés populaires citoyens, à différentes organisations de jeunesse, et où, grâce à ça, on obtient de la nourriture.
Si on s'inscrit.
Si on s'inscrit. Et c'est le chef du comité ou la responsable du comité local qui vous donne ses prestations. Donc, il a un volant de gens qui votent pour lui et qui sont acquis à sa cause parce que le Nicaragua est dans une telle situation économique dans les zones urbaines que il y a peu ou pas d'emplois. Les seuls emplois, c'est des emplois mal payés dans des usines d'assemblage de vêtements, où il y a très peu de valeur ajoutée, et il y a un chômage massif dans les grandes villes, et en particulier dans Managua.
Alors, l'économie est très difficile à estimer, parce qu'elle est à 70% informelle. Un projet serait d'installer une vaste zone franche au centre du pays, de part et d'autre, d'un canal qui doublerait le canal de Panama, qui ferait 320 mètres de large, qui utiliserait le lac Nicaragua, et qui ne serait pas financé, comme dans le projet numéro 1 qui s'était décidé en 1914 par les États-Unis, mais par des Hongkongais. Et derrière les Hongkongais, peut-être le gouvernement de Pékin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de canal de Panama bis ?
Cette histoire de canal bis, c'est un projet très concret de spoliation foncière, c'est-à-dire que cette entreprise canalière de Hong Kong, avec derrière la République populaire de Chine, va exproprier...
Elle est vraiment derrière ?
Il semble qu'elle soit derrière, va exproprier, et là l'expropriation est en marche, et il y a des mouvements paysans contre cette expropriation, elle va exproprier des terres agricoles de très bonne facture, en les achetant très en dessous du prix du marché, et c'est la poursuite d'une politique que les Chinois ont partout aujourd'hui, qui est d'acheter de bonnes terres arables. Et il y a l'idée aussi de construire des zones touristiques sur la côte pacifique et la côte atlantique, et sur les deux côtes du lac du Nicaragua, et sur le sud de l'île d'Ometepe.
Mais comment les États-Unis, qui ont toujours considéré le Nicaragua et l'Amérique centrale depuis la fin du 19e siècle comme étant leur zone d'influence, pourraient-elles tolérer l'éventuelle implantation d'un canal chinois ?
Parce que les États-Unis ont changé de ce point de vue-là, et que le canal chinois ne verra sans doute pas le jour immédiatement s'il voit le jour, mais il le verra d'ici 20 ou 30 ans quand la marine chinoise sera devenue une des plus importantes du monde et qu'ils auront constitué une marine de guerre. Et à ce moment-là, ils voudront sans doute avoir une voie d'eau qu'ils contrôleront pour passer, s'ils ne passent pas par les mers d'une, enfin, par la baie d'Hudson, vu le réchauffement climatique, pour approvisionner le port de Mariel qu'ils sont en train de reformater pour faire un port porte-container et de là distribuer toutes leurs marchandises dans la Caraïbe.
Mais en même temps, vous êtes un peu trop influencé par la propagande d'Ortega. Il n'y a pas un poil de travaux commencés.
Il n'y a pas un poil de travaux commencés, c'est évident. Mais ce qui est évident aussi, c'est qu'il y a un projet d'expropriation des terres et que c'est des terres arabes d'une très très grande valeur. Et que c'est ça la chose sur laquelle le bas blesse aujourd'hui. Et c'est ça qui est important aujourd'hui.
Merci à vous, Gilles Bataillon, bien connu comme défenseur des paysans et des Indiens du Nicaragua. Mehdi Fatah à la technique, Valérie Aestaraï à la réalisation, Marion Philippe, Clara Garçon pour la préparation. Puis je rappelle votre édition d'Anatomie de la Révolution de Moïsès Hassan aux éditions des Belles Lettres. Qu'est-ce que c'est que cette question, Mathieu Vidard, qui vous tracasse aujourd'hui ?
Les robots font-ils l'amour, Jean ? C'est cette question à laquelle vous faites allusion, j'imagine.
Sans doute. Oui.
C'est pour parler du transhumanisme, pour parler de l'homme augmenté, par exemple.
Allez. Extrêmement bonne accroche.